والعاشقين ناس تقول الياسمين يا حليلو يا حليلو يا حليلو الورد يفتح يفتح ويذبل الورد يفتح يفتح Yeah. كلام وغير حنان وتنين يا المقنين الزين يا المقنين الزين حين العينين اصفر الجناحين يا حمر الخدين هذه مدة وسنين تفيق في صح زين تغني بصوت حنين من يعرف هناك منين.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb avec vous à l'animation comme d'habitude Wahid El Amine. Bonsoir Wahid.
Bonsoir Wahid. Bonsoir El Amine. Bonsoir
Charles. Wahid. Mohamed. Donc vous êtes bien à l'écoute du 102.3 FM avec vous Taxi Maghreb jusqu'à minuit. Ce soir nous avons un invité et d'autres sujets que Wahid nous a préparé comme d'habitude. On peut dire que Wahid voyage tout au long de deux semaines à travers Internet et nous ramène des sujets qu'on essaye de débattre avec vous au 102.3 FM un samedi sur deux dans l'émission Taxi Maghreb. Nous allons commencer avec notre invité, donc Karim Lekhel, qui nous vient de France, un Français d'origine algérienne. On discutera cette notion d'origine avec lui aussi. Il est ici au Québec dans le cadre donc de ses études. Il va faire une recherche sur la communauté maghrébine, sur les défis qu'elle vit ici au Québec et bien sûr sûrement les comparer avec ce qui se passe en France depuis très longtemps. Karim, bonsoir et bienvenue à notre émission.
Bonsoir Lamine, bonsoir à toi.
Donc Karim, il fait chaud hein.
C'est incroyable. Je pensais pas que ça serait comme ça. J'avais prévu plein d'affaires assez chaudes pour Montréal exclusivement et finalement ben voilà, il fait très chaud, c'est un peu pas la canicule mais pas loin.
Au moment, en tout cas dans le studio,
Dans le studio, c'est caniculaire. Par contre, ça, il n'y a plus de clim, retombé en panne.
Et par rapport à Paris, en France en général, il fait froid ces jours-ci.
Les dernières nouvelles que j'ai de Lyon, c'est pas très chaud en fait. Voilà, c'était un peu 8 degrés, du vent froid visiblement.
Excellent. Donc vous êtes avec nous durant une heure et demie d'émission. On va parler de vous, de votre parcours, de l'immigration, de ce qui se passe en France, puisqu'apparemment nos politiciens ici au Québec, nos hommes de médias et nos femmes de médias veulent copier tout ce qui se passe en France. Donc on aura l'occasion
c'est
de voir.
C'est un peu ce que j'ai cru comprendre.
Ouais. Exactement. Donc on va essayer de voir ce que Karim pense de ce qui se passe en France, ce qui se passe ici aussi au Québec. Et bien sûr, vous pouvez toujours participer avec nous comme d'habitude au 514-495-2597. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb avec vous Lamine et Wahid et notre invité Karim Lekhel, qui est donc psychologue de formation, qui nous vient de France. Il va s'installer pour quelques semaines, disons peut-être quelques mois, ici à Montréal, pour faire une étude sur la communauté maghrébine. Wahid.
Karim, il va nous analyser. Il viendra un jour un Algérien justement de Montréal qui va aller analyser les confrères algériens en France.
En tout cas, il sera bienvenu.
Voilà. Pas de problème. Merci, Karim. Karim, on va écouter Abdullah.
Abdullah Takmani, voilà, qui est à l'origine de la création de Raïna Raï, entre autres. Donc, Abdullah.
We're
vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. On vous rappelle que pour ce soir, nous recevons un invité qui nous vient de France, Karim Khalki, et donc psychologue de formation, qui vient ici dans le cadre de ses travaux de recherche pour obtenir sa maîtrise. Et il s'intéresse à la communauté maghrébine. Bien sûr, il est d'origine maghrébine, puisqu'il est d'origine algérienne. Et il est avec nous, Wahid, aujourd'hui, pour essayer de nous éclairer sur la France, puisque la France est devenue maintenant la référence...
L'intolérance.
La référence pour le Québec.
Ça,
c'est l'intolérance.
Source d'inspiration.
Et nous autres immigrants, il faudra qu'on essaie de bien comprendre la France pour pouvoir s'intégrer au Québec. Donc, peut-être qu'on va proposer comme démarche d'intégration que l'immigrant au Québec s'installe 6 mois en France, après il vient au Québec. Peut-être. Ça peut être une option.
Ou le chemin inverse.
Mais on l'a dit il y a une quinzaine de jours, Lamine, lors de la précédente émission, qu'il y a des gourous de médiatiques, des médias, des gros médias québécois, qui font carrément du copier-coller de tout ce qu'ils entendent en France, en métropole.
Outre-Atlantique,
en France métropolitaine. Ouais, ouais. Ça, c'est extrêmement désolant.
Alors, c'est un peu ce que j'ai remarqué. Ça m'a étonné, d'ailleurs.
Ça fait combien de temps, juste pour les auditeurs, ça fait combien de temps que...
Que je suis là, ça fait un mois.
Un mois. Et donc, tu as pu remarquer ça.
C'est tout récent. En fait, j'ai déménagé depuis la semaine dernière, dans un nouveau logement avec, il se trouve, le câble. Et donc, de temps en temps, forcément, je zappe un petit peu. Et puis, je suis tombé sur une émission de pas plus tard que cet après-midi ou ce matin. Où un politicien canadien prenait comme modèle, notamment par rapport à la question du voile, au port du voile, le modèle français, et puis tout ce que la France en fait essaie d'instiller petit à petit dans la société pour ou contre le port du voile.
À la différence que ici, je pense que le politicien dorme très longtemps, après il se réveille. Et le réveil est des fois rapide, parce que en France, le rapport, c'est-à-dire, a duré au moins une année avec des consultations avant que le rapport soit émis et que le président de la République française prenne la décision de légiférer sur la question du voile. Ici, c'est très différent. Ici, le rapport de Bouchard-Taylor a été mis déposé le 25 mai 2008. Et ça a pris 2 ans et demi presque. Non, disons 2 ans, moins de 2 ans un peu. Et ça a pris que Madame Naïma, une immigrante d'origine égyptienne, décide de porter le niqab dans un cours de français, que nos policiers se sont réveillés et ils ont décidé de proposer une nouvelle loi qui s'appelle la loi 94.
Et visiblement, il y a eu même l'intervention du ministre au sein de l'établissement, compris.
Oui, c'est que le ministre n'est pas très, très... Vous savez, il y a 28% de Maghrébins qui sont au chômage. Ouais. C'est pas du tout un problème qu'ils se débrouillent. Là, c'est pas une priorité. Mais par contre... Une femme qui cache son visage, c'est très dangereux pour le Québec. Donc là, il fallait l'intervention de la ministre au début. Après ça, c'était la presse, l'opposition, Madame Pauline Marois. Et maintenant, c'est Monsieur Charest lui-même qui intervient avec une loi à travers donc son parti politique au pouvoir. Et tout le Québec, je voudrais saluer Madame Naïma, puisqu'elle a fait bouger, elle a créé une activité politique de 2 mois presque au Québec, parce qu'elle a décidé juste de se cacher le visage. Ah, Wahid?
Moi, ce que je dis, c'est que ce qu'on a vécu il y a 2 ans de cela, en 2007, fin 2007, avec les accommodements raisonnables, moi, j'ai pris une petite virée en Algérie, je me suis enfui pendant 2-3 mois, je suis revenu, et j'ai vu qu'apparemment, le Québec ne s'est pas amélioré, n'a pas avancé d'iota. Et malheureusement, la France n'a pas réussi, et le Québec
La France n'a pas réussi, ça c'est toi qui l'avances. On va demander à Karim.
Il y a quand même l'interdiction du port du voile, de tous les signes ostentatoires. On ne désigne pas le voile forcément directement comme ça. C'est tous les signes ostentatoires d'appartenance religieuse qui sont interdits dans l'enceinte des établissements scolaires et la fonction publique en principe.
Karim.
Je voudrais juste, avant de rentrer, parce qu'on a été entraîné dans le sujet.
Karim, c'est prenant hein, comme sujet.
Pourquoi tu es au Québec et pourquoi étudier la communauté maghrébine en particulier? Alors, et là, on va revenir maintenant en France et ce qui se passe en France et l'histoire de l'immigration en France sur la question de l'intégration et particulièrement la question du religieux dans la vie publique.
Alors en fait c'est tout simple. Hein. C'est une recherche que j'ai commencé en France l'année dernière. Je me suis intéressé à la population maghrébine de France. Enfin bon, je n'ai pas étudié la population maghrébine de France dans son dans son ensemble, hein, c'était un échantillon. Et en fait, voilà, je me suis intéressé plus particulièrement à la notion de dette symbolique. Parce qu'en fait, c'est, je pense, très culpabilisant pour quelqu'un de partir, de quitter son pays, de quitter sa famille, de la laisser sur place. C'est extrêmement coûteux sur le plan humain. Et donc, en fait, la dette symbolique, c'est une dette qu'estime avoir la personne qui part, donc qui part à l'étranger, qui s'installe dans un pays, et il estime qu'il a plus ou moins, entre guillemets, je vais dire, pendant un raccourci, abandonné les siens, qu'il les a laissés à leur propre sort. Et donc, de par ce fait, il contracterait une dette qu'il essaierait, tant bien que mal, par différents moyens, de rembourser par exemple l'envoi d'argent régulièrement au pays d'origine.
Il veut se rattraper en fait, quoi.
C'est un peu ça, c'est un peu ça, oui. Bah, à titre d'exemple, voilà, j'ai des chiffres sous les yeux, hein. En 2005 par exemple, l'envoi de devises dans les pays du Maghreb, uniquement le Maghreb, représentait 10 milliards de dollars.
Voilà. À partir de la France.
D'Europe. D'Europe, voilà.
Transfert d'argent.
Voilà, les transferts de devises.
Le transfert de devises.
Ah, voilà.
Ouais. Il faut quand même mentionner que quand un immigrant arrive, c'est l'équivalent de 1 million de dollars qui arrive, puisque un immigrant avec un moyen d'âge de 30 ans, avec un diplôme universitaire en bonne santé, puisque au Canada, il faudra qu'on soit en bonne santé pour pouvoir immigrer, puisqu'on passe une visite médicale. Plusieurs visites. Mais en tout cas, donc c'est en fait contre le 1 million qui arrive, multiplié par le Québec, le Canada reçoit à peu près 250. Donc c'est autour de 250 millions de dollars qui arrivent chaque année au Canada.
C'est les 250 millions de dollars qui vont payer dans quelques années les salaires justement des retraites, des personnes qui s'en vont à la retraite.
Non, mais
il ne faudrait pas l'oublier aussi.
Ça, c'est juste quand ils arrivent.
Bah ouais.
Mais quel est maintenant, pourquoi en fait, s'intéresser à la communauté au Québec?
Je me suis dit qu'en fait, si la deuxième destination, entre guillemets, privilégiée des Maghrébins qui s'exilent, d'une certaine manière, c'est après l'Europe et notamment la France, c'est l'Amérique du Nord et notamment le Canada et surtout le Québec, puisqu'il y a cet avantage effectivement culturel au niveau de la langue commune. Donc mon intérêt effectivement était de venir ici après avoir fait cette première recherche l'année dernière à Lyon, puisque je suis originaire de Lyon. Venir ici et puis effectuer cette recherche auprès de la communauté maghrébine de Montréal pour voir un peu à quel niveau ça se joue. Est-ce que ça se joue de la même façon? Parce que c'est pas anodin de venir en Amérique du Nord. On vient pas en Amérique du Nord pour les mêmes raisons. C'est pas comme aller en France. C'est pas du tout la même démarche.
Et aussi, c'est pas, je dirais, il y a une sélection que le Québec et le Canada imposent au processus d'immigration qui fait en sorte que c'est pas la même immigration. Mais quand même, juste par rapport à ce sujet, qu'est-ce que la France et les problèmes de la France sur la question de l'intégration? On sait très bien que l'immigration a été toujours, presque depuis 50 ans, je dirais 40 ans, un sujet très chaud au sein de la politique française. Mais qu'est-ce que la France pense du modèle québécois ou du modèle canadien? Est-ce que c'est un modèle qu'on n'en parle même pas, ou est-ce qu'il y a un intérêt qui peut-être t'a poussé toi aussi à aller essayer de venir comprendre ce qui s'est passé ici pour les Maghrébins?
Le modèle québécois est très peu connu, hein, au niveau de l'immigration. Il y a des idées peut-être reçues, des idées vraies, certainement des fois, voilà, au niveau la gestion du moins de l'immigration. Et il y a aussi, j'ai l'impression, une idéalisation. On a l'impression, on a le sentiment, enfin vu de France, hein, toujours, que c'est toujours plus facile, c'est plus facile au Canada, c'est plus facile au Québec, qu'il y a plus d'opportunités, il y a plus de chances d'y arriver, entre guillemets, de faire quelque chose de constructif de sa vie, de ne pas se retrouver confronté à des murs, en fait, à une espèce de plafond de verre invisible qui nous empêcherait de progresser et d'évoluer. Après, je sais pas si c'est réellement vrai, parce que j'ai rencontré des personnes, c'est assez intéressant, notamment un chauffeur de taxi, un soir où j'ai pris un taxi, qui était...
Sûrement médecin ou ingénieur.
Voilà, qui était diplômé dans son pays d'origine et qui s'est retrouvé là et qui me dit je regrette d'être venu, je sais pas pourquoi, voilà, je me retrouve là à faire chauffeur de taxi. Donc il y a une désillusion quand même, hein, quelque part. Voilà, les États-Unis, c'est un pays idéalisé, mais le Canada aussi, et c'est une espèce d'Eldorado en fait que certaines personnes viennent chercher, mais qui se retrouvent finalement désabusées une fois qu'ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça.
Ça rappelle l'appel des sirènes.
C'est un peu ça, ouais.
L'appel des sirènes québécoises.
Ouais. C'est des Ulysses, hein, de toute façon, les gens qui s'exilent, c'est un peu des Ulysses. Hein. C'est voilà, ils répondent effectivement à des voix assez douces qui sont séductrices, mais,
il faut
mais
dire
qui
aussi
peuvent
que
amener à la perdition.
Ne trouvez-vous pas que la personne qui maghrébine qui a l'intention d'immigrer en France ou dans le bassin donc francophone européen a plus d'informations sur son pays d'adoption qu'il ne l'a sur, par exemple, le Québec ou le Canada?
C'est d'autant plus facile, oui, effectivement. Ben, en fait, l'histoire, elle est connue puisqu'elle est aussi étudiée. Voilà, forcément, donc, et puis il y a un passé commun entre le Maghreb et, on va parler de la France, hein, je ne vais pas prononcer pour les autres pays, mais pour la France, il y a un passé commun, et peut-être même un passif aussi, des fois, voilà, tout dépend.
Vous confirmez qu'il y a un problème d'information?
Il y a un problème d'information, bien sûr, mais oui. Et après, effectivement, moi-même, j'ai regardé, je suis allé sur des sites internet avant de venir. Pour voir un peu comment ça se passait ici.
Karim, après votre séjour ici, vous avez sûrement l'intention de revenir en France et d'informer les gens de la situation des Maghrébins ici. Parce que beaucoup de gens sûrement en France, de Maghrébins, de beurre et de beurrettes, ne savent pas ce que certains Maghrébins, une grande minorité, endurent.
C'est une réalité, oui, effectivement. Et bon, voilà, c'est aussi intéressant pour moi dans le cadre de ma recherche, effectivement, de relever ce genre de problème qui est réel, qui n'est pas partagé par tout le monde, hein, et on va rassurer quand même un peu les gens, c'est pas l'enfer non plus, mais voilà, il faut s'attendre à ce que ce soit quand même un peu compliqué.
Un autre phénomène aussi qu'on peut remarquer depuis, je dirais, quelques années, mais qui est de plus en plus important, c'est les Français d'origine maghrébine qui viennent s'installer au Québec à partir de la France.
Oui.
C'est un phénomène qui est de plus en plus important, qui représente aussi peut-être une fuite d'une situation en France par rapport à la question de la discrimination ou par rapport même à la question du bien-vivre. Les gens ne se sentent pas bien. Ce qui fait qu'ils essayent de chercher ailleurs. Mmh. Et le Québec représente, à cause de la langue, peut-être une chance pour ces Français d'origine diverse d'aller chercher d'autres horizons.
Alors, c'est vrai j'ai pas l'impression que la discrimination ici se joue au même niveau par rapport à la France. Moi, j'ai pas eu de problème depuis que je suis arrivé à Montréal. Enfin voilà, j'ai rencontré des personnes, pas plus tard qu'hier soir, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, que j'avais déjà vu par avant, mais qui se rappelait plus de mon prénom, qui me dit, tu t'appelles comment? J'ai dit, Karim, qui m'a regardé un peu surpris, mais en me disant, mais c'est pas discriminatoire en fait, c'est simplement que t'as pas le faciès de prime abord de quelqu'un qui s'appelle Karim, d'autant plus que tu viens de France, penser que tu t'appellerais Étienne ou quelque chose comme ça. Voilà, enfin tout ça
il
pour dire qu'effectivement
dire que actuellement peut-être il y aura plus de Karim en France qu'Étienne.
Je lui dis mais Karim ça fait partie de la France. Voilà en fait ce que j'ai répondu. Je lui dis Karim maintenant c'est français. C'est français. Mais enfin tout ça pour dire qu'effectivement j'ai pas l'impression qu'il y ait même préjugé par rapport aux Maghrébins ici à Montréal. Après c'est voilà, je suis là que depuis un mois seulement. Il est possible qu'il y en ait par rapport à la France.
Votre séjour il est assez court, je pense que vous allez l'étaler dans les prochaines semaines, je vous le souhaite.
J'irai jusqu'à fin mai.
Inch'Allah. Il y a une chose qui est un peu différente entre le Québec et la France. Lorsqu'un Français d'origine maghrébine, qui est titulaire d'un diplôme universitaire assez conséquent, essaye de rentrer dans les appareils politiques pour essayer d'émerger, et pour éviter qu'il y ait justement le mur en
verre, hein.
Voilà, le plafond de verre. Mm-hmm. Ici au Québec, ça n'existe, ça existe presque, c'est un peu plus mitigé. Mm-hmm. Donc c'est beaucoup plus facile donc d'accéder à certaines sphères donc de responsabilité. Mm-hmm. Mais il faut le dire aussi que la communauté maghrébine, ou du moins certaine, ne fait pas assez d'efforts pour essayer d'intégrer ces appareils et de trouver des solutions adéquates à leurs problèmes. Ça, moi, c'est ce que j'ai remarqué ici. Je suis là depuis 8 ans.
Ben, je ne peux pas me prononcer là-dessus.
Oui, mais je vous le souhaite d'essayer de justement d'aller chercher dans ce côté-là. Oui.
D'accord.
Merci Wahid, merci Karim. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb avec vous, la mini Wahid à l'animation. Karim Lekhel qui nous vient de France, donc un Français d'origine maghrébine qui vient pour faire une recherche sur la communauté maghrébine.
Voilà, je fais une rectification. Je suis psychologue stagiaire. Je ne suis pas encore diplômé. Je serai dans 2-3 mois.
Exactement,
voilà.
Psychologue stagiaire qui fait une recherche pour
le Master 2,
Sur la communauté maghrébine, surtout sur la question de l'intégration, une comparaison avec ce que la communauté maghrébine vit en France et ce que la communauté maghrébine vit ici au Québec. Je vous rappelle notre numéro de téléphone. À partir de ce moment, on peut commencer à prendre les appels. 514-495-2597. On y va avec une petite pause publicitaire. Après ça, une pause musicale et on revient avec Wahid, Lamine et leur invité.
En 24 heures, on peut se rendre en Floride en taxi. En 24 heures, on peut devenir propriétaire d'un véhicule. En 24 heures, on peut se simplifier la vie.
En 24 heures, FinTaxi peut vous aider à financer votre permis de taxi en plus de vous offrir une multitude de services sous un même toit.
Nous vous proposons des conditions avantageuses, une démarche simple et facile, un service courtois et des délais très courts. Pour en savoir plus, appelez-nous au 514-353-2757. 514-353-2757 ou visitez le site fintaxi.ca. Avec FinTaxi, prenez la direction de votre réussite.
Hey, taxi!
Le Festival culturel nord-africain de Montréal présente le deuxième printemps culturel nord-africain de Montréal, le rendez-vous du cinéma, de la littérature et de la musique du Maghreb, du 26 mars au 10 avril 2010 dans le quartier Côte des Neiges à Montréal. Au programme littérature avec le lancement du 12e Maghreb du Livre de Montréal en partenariat avec l'Espace du Livre francophone et la librairie Olivieri, invité d'honneur l'écrivain et poète Anwar Ben Malek. Du cinéma avec des films d'ici et venus du Maghreb aussi. De la musique pour la clôture du printemps culturel avec l'ensemble des amis de la musique andalouse de Montréal. Pour plus d'informations et programmes détaillés, www.maghrebculture.com ou 514-466-1300. 514-466-1300.
لاني كاع كانوا حابسين كيفي ما يخدموش خلاص تريسيتي الغاز مقطوعين توحشت القهوة بالأغراس والشر عند الباب يعس ويقابر كيفاش نقيبس ساعتي قربت تصوني دورتها باندي سامحوني ساعتي قربت تصوني دورتها باندي سامحوني للزنقة خرجت معول وفي يدي مطرق كبير أصرعت اللي جاز الأول خليته خليته بلا سمير لحنوش أسمعوا باللي حصل جاو طلعوني بالسنازل حكموني عند القواجي ديريكسيون للسركاجي حكموني عند القواجي ديريكسيون للسركاجي السفلان ولا الفلتان كيشومار كيما الخدام كامل خالو هاد الانسان
حكموا عليه بالإعدام. زي القاضي حنان الشومية كحكيت له قاع الميزيرية قال لي انت من المجرمين لازم تخلص عشر سنين. قال لي انت من المجرمين لازم تخلص عشر سنين. ضربت التمنية طلقوني توحشت الكارتياسي في ديكور فاني نتريني نمشي ومحبط راسي خايف الناس يعقلوني يعكسوني ولا يسبوني قلت ما زال فيهم الشحنة كيشوفوني يطيحوا عليا قلت ما زال فيهم الشحنة يشوفوني يطيحوا عليا. لقيت واحد وليد حومه قال لي مرحبا بك يا علي واحد اخر قال لي عالسلامه كنا خايفين جامي تولي قلت ما بانتني حاجه كاين احباب في هذه الدنيا حطيت قاعي في الطرطوار وخليت دموعي تفور حطيت قاعي في الطرطوار وخليت دموعي تفور.
سيتي سيدي بمول الباندي ان شانتور دو شينو
كريم
magnifique ça rappelle des souvenirs.
Oui, donc Karim, je voudrais quand même rappeler par rapport à votre parcours, bon, vous êtes né en France, grandi en France, après vous êtes revenu en Algérie pour quelques années et après vous êtes revenu en France.
Oui, voilà, j'ai grandi à Lyon jusqu'à l'âge de 10 ans. Voilà, et puis ensuite à l'âge de 10 ans, enfin quand j'avais 10 ans, mon père qui ne travaillait plus avait une pré-retraite. C'est lassé en fait de la vie en France, voilà, et c'est un peu ce qu'on appelle le mythe du retour de tous ces maghrébins des années 50 qui sont venus en France en se disant un jour je retournerai chez moi, je vais retourner chez moi, je m'installe, mais enfin je m'installe pas, je reste pas, c'est provisoire, et puis finalement ils se retrouvent à faire des enfants, à ramener la famille, à s'agrandir, à s'installer, à travailler, et puis voilà, et puis les années passent et finalement ils rentrent jamais, ou alors il y en a qui rentrent, voilà, comme dans le cas de mon père qui est rentré, qui a voulu rentrer bien des années après, et en fait voilà, donc on est resté, on habitait à Alger, à Birmandres, voilà, pour ceux qui connaissent, et voilà, et puis en fait j'ai grandi de 10 ans à 18 ans à Alger, et ensuite je suis revenu en France.
Karim, on a tendance à dire d'une façon très empirique que peut-être que l'échec de l'intégration de la communauté maghrébine en France, s'il y a échec, pour ceux qui considèrent ça comme un échec, est dû à un élément que vous venez de mentionner, c'est la question du retour. C'est qu'on s'est toujours dit que le maghrébin qui s'est installé en Europe en général, en France en particulier, pensait toujours à son retour. Tout le monde essayait de construire une maison au bled, ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment une volonté de s'intégrer, de faire partie de cette nouvelle société pour eux, qui est soit la France, soit la Hollande ou d'autres pays. Et on pense qu'en Amérique du Nord, la situation est différente. Mais de ce que je comprends de vous, il y a un aspect psychologique, il y a un remords et une volonté, une recherche de compensation qui fait en sorte que quelque part, on ne peut pas se débarrasser de cette volonté de retour ou de développer une relation, même des fois mythique, avec nostalgique avec le pays d'origine.
Mais c'est complètement mythique, hein, parce que en fait, le drame pour certaines personnes est... L'une des personnes que j'ai eu en entretien l'année dernière me l'a fait comprendre malgré elle, c'est que en fait, je lui dis, est-ce que vous pensez que vous retourneriez un jour en Algérie, vous installer? Elle m'a dit, mais pourquoi faire? Je connais plus personne. Et en fait, il y a un tel décalage entre le moment où les gens sont partis et au fur et à mesure du temps, je veux dire, là, voilà, les pays, le pays d'origine change aussi. Donc c'est une espèce d'entre-deux. Alors c'est un peu la double absence aussi, ça fait penser à la double absence d'Abdelmalek Sayad, qui est, voilà, qui a écrit un très beau livre là-dessus, où en fait il explique que les gens qui sont en situation d'exil comme ça, ou d'émigration, ou d'immigration, ça dépend de quel côté on se place, sont présents physiquement dans le pays d'accueil, mais avec garde à l'esprit le pays d'origine, et donc ils sont absents psychiquement. Et dans le pays d'origine, c'est l'inverse, ils sont absents physiquement, mais ils sont aussi présents psychiquement dans l'esprit de la famille ou dans leur propre esprit aussi.
Mais donc c'est un problème en fin de compte existentiel. Alors, pour l'immigrant, il est lié à chaque immigrant, peut-être le degré est différent, on le gère d'une façon différente.
Mais je crois que c'est valable pour quasiment toutes les personnes qui s'exilent et qui émigrent. C'est pas spécifique
aux
Maghrébins. Après, de là à savoir si ça peut expliquer les problèmes d'intégration quand vous venez de me dire. Alors, est-ce qu'il y a réellement des problèmes d'intégration ou est-ce qu'il n'y aurait pas aussi peut-être des problèmes d'exclusion? Donc voilà, entre les deux, ben c'est des phénomènes, je pense, complexes à cerner et on peut pas voilà prendre un seul détail, une seule explication et la généraliser en disant bah ça vient de là.
On va prendre un appel. Louis, bonsoir. Louis.
Oui, bonsoir.
Oui, ça va être fadal.
Très bien. Voilà, j'ai juste une question là, parce que je voudrais savoir exactement c'est quoi le mot intégration veut dire sur tous ces aspects.
En fin de compte, vous le posez la question parce que c'est relatif, mais on a l'occasion d'avoir Karim qui travaille sur le sujet. Peut-être que lui pourra nous donner un point de vue sur la question. Mais je suis d'accord, Saïd, c'est une question aussi à $1 million parce que tout le monde parle de ça, mais en fin de compte, moi, personne n'arrive à le définir.
Je l'ai préféré en euros, ça paye mieux.
Ok, oui.
Bon, en dinars,
vous aurez $1 million.
En dinars, voilà.
On n'a pas encore intégré ni l'euro ni le dollar. Donc
on le dinar. Eh ben, finalement, voilà. C'est, alors ça tourne autour de quoi l'intégration? C'est une question tellement complexe que je suis pas sûr qu'on puisse y répondre comme ça tout de suite. Après, je pense que c'est individuel. À partir de quand on s'estime intégré?
Non, mais
finalement,
je pense par rapport à Saïd aussi. Saïd, la question qu'il pose, elle est à mon avis, moi-même je la pose à moi-même aussi. C'est une question de plutôt pratique. À quel moment, moi je suis arrivé à telle date, à quel moment je veux dire que je suis arrivé à 20% d'intégration? Est-ce que par exemple je vais commencer à donner des noms, je vais avoir mon premier enfant, je vais l'appeler Étienne au lieu de Karim? Est-ce que c'est ça l'intégration? Est-ce que parce que je vais commencer à consommer comme la société d'accueil que je suis intégré, est-ce que c'est parce que je vais commencer, par exemple, dans notre cas au Québec, bien que c'est intéressant parce que je pense que la majorité des immigrants embarquent sur ça, le hockey, est-ce que c'est parce que je vais commencer à avoir des games de hockey que je deviens intégré au Québec? C'est une question réelle et pratique. À quel moment on peut, parce que on en parle beaucoup, on parle du manque d'intégration, du manque de volonté d'intégration, mais d'un autre côté, nous aussi, nos immigrants, on demande aux autorités, donc au gouvernement, vous n'avez rien fait pour l'intégration, mais c'est quoi l'intégration?
Ben, c'est un peu ce que je vous disais juste avant, c'est est-ce qu'il y a réellement des problèmes d'intégration ou ça ne serait pas plutôt des problèmes d'exclusion? C'est voilà, après, au niveau de l'intégration, moi je pense que c'est complètement individuel. Et quand, voilà, à partir de quel moment nous on se dit intégré? Après, c'est, voilà, je pense que c'est à partir de ce moment là qu'on pourra effectivement œuvrer pour que
mais
les
Karim,
choses évoluent.
Ici, en fin de compte, tu viens de donner une définition intéressante sans vouloir trop mettre je dirais l'emphase sur ça, mais ce que j'ai compris de ce que vous venez de dire, c'est qu'en réalité vous définissez la chose par la partie vide, non pas par la partie pleine, et là vous dites que si on n'est plus exclu et qu'on se sent plus exclu, on est intégré.
Si on n'est plus exclu,
oui.
Plus ou plus?
Non, on n'est plus.
C'est avant tout, c'est une démarche personnelle, et puis c'est aussi ce qui va finalement, petit à petit, je pense, faire évoluer
après
les
mentalités. Après ce petit débat, je reviendrai à ça. Et alors, c'est quoi l'intégration?
C'est moi, c'est quoi l'intégration? Enfin, l'intégration, c'est de répondre, répondre à l'autre. Enfin, le pays d'accueil, est-ce qu'il veut? D'après moi, c'est lui qui doit répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il attend d'un immigrant qui vient s'installer ici?
Ah, mais en
comment
tout cas
l'intégrer? Est-ce qu'il va y poser ses valeurs? Est-ce qu'il va garder ses valeurs d'origine? Moi, ce que je sais que, généralement, moi, parce qu'on me l'a dit à l'immigration la première semaine d'information, on n'attend pas beaucoup de choses de vous, mais ce qu'on attend le plus, c'est vos enfants. Donc, je pense que le système ici québécois, il veut beaucoup plus intégrer nos enfants que nous-mêmes. Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas nous intégrer à 100%. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça serait plus facile avec nos enfants qu'avec nous-mêmes. Parce qu'ils ont même mis sur les enfants. Le système, il favorise les enfants, ok? Un enfant, il peut facilement vous l'arracher hein, s'il y a un petit problème. Donc, ils vont le modeler à leur façon. Et je pense que c'est cet enfant qu'ils veulent vraiment intégrer. Je ne sais pas.
Merci beaucoup, Saïd Atexaha, pour votre appel.
Kerim, tu avais pas parlé de ce que l'intégration... ça voulait dire exclusion ou inclusion. Lamine avait parlé que notre intégration ici au Québec, on prenait l'exemple du Québec, serait le jour où, par exemple, les familles donc algériennes d'origine ou marocaines ou tunisiennes, anyway, allaient voir des matchs de hockey sur glace au Centre Bell. Et
félicitations pour les Canadiens aujourd'hui.
Félicitations pour les Canadiens. Ah. Mais pour aller, Lamine, pour
ils
aller.
Ils sont pas, non, pour démontrer qu'on est intégré, Wahid.
Non, mais non,
c'est
on
une occasion
l'est,
pour
l'est,
nous.
On l'est.
Non, il faut qu'on démontre à Karim qu'on l'est. Donc là, non, c'est vraiment félicitations tout le monde.
Est-ce que tu as les résultats du foot en France? Non.
Non, non, le foot en France c'est fini là.
Moi j'étais.
Le foot en France c'est fini avec Zidane en fait.
Non, mais je regarde pas le foot moi, en plus. Moi, c'est une plaisanterie.
Lamine, donc j'étais comme peut-être d'autres dans un café et récemment ils m'ont dit on va aller voir les résultats. J'ai dit quoi? Il y a un match à 20h. Ils m'ont dit non, il y a les Canadiens. J'ai dit mais Fateh, toi tu suis les Canadiens? Ben oui, depuis longtemps. Alors la question qui se pose, ces enfants qui sont adolescents, pour aller leur permettre d'aller rentrer dans des clubs de hockey, ça coûte de l'argent. Et donc, si une personne a un travail qui est respectable, du moins adéquat, peut se permettre de faire rentrer un ou deux ou trois enfants dans des clubs de hockey qui coûtent assez cher durant l'année, en parlant de matériel et d'équipement. Donc, l'intégration, oui, c'est vrai, le jour où je vais aller mimer les us et coutumes, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais il faut en avoir les moyens pécuniers.
Dans ce cadre-là, oui. Après, bon, il y a aussi différents moyens. Voilà, c'est enfin c'est. Est-ce que s'intégrer, c'est aller OK? Est-ce que c'est aller voter? Parce qu'il y a la question du vote aussi. Le vote, c'est très intéressant. Voir les participations, le taux de participation dans les élections locales, régionales, nationales, au niveau des populations entre guillemets d'origine étrangère, que ce soit les Maghrébins, les Africains ou autres. C'est aussi des indicatifs de tendance.
En parlant d'intégration, Karim, qu'est-ce qui se passe en France? De loin, on entend parler des banlieues, on entend parler de plein de problèmes, que ça ne va pas, qu'il y a beaucoup de problèmes.
Des bus qui brûlent.
Des bus qui brûlent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et aussi un autre élément, c'est sûr qu'il y a beaucoup, 5 millions juste d'Algériens en France. Est-ce que tout le monde souffre? Est-ce que tout le monde n'est pas intégré dans le sens comme on veut intégrer au niveau professionnel? Ou est-ce qu'il y a pas beaucoup je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens qui s'en sortent bien là-bas. Ou est-ce que c'est vraiment, on peut dire que c'est une catastrophe pour tout le monde et c'est l'échec de la France sur la question de l'intégration des Maghrébins?
Non, c'est pas aussi dramatique. Heureusement, c'est pas Harlem, c'est pas le Bronx. C'est bien que Lyon, dans les années 80, était surnommé Chicago sur Rhône parce que c'était extrêmement. C'est à l'époque les premières émeutes aux Minguettes, l'époque de la marche des qu'on a requalifiée en disant marche des beurs, alors que c'était la marche pour l'égalité. Voilà, qui était requalifiée après par les médias, pas marche des beurs. C'était pas que des beurs. Et vous aussi les tartines. Mais voilà, c'est un problème qui est récurrent, qui n'est pas d'aujourd'hui. Qui n'est pas d'aujourd'hui. Je pense que les solutions, malheureusement, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elles viennent des politiques. Je pense qu'elles viennent plus du milieu associatif et d'initiatives personnelles, notamment de chercheurs. Voilà, par exemple. Pour ne citer qu'elle, j'ai une prof à la fac à Lyon 2, Béatrice Clavel, qui a créé ce qu'elle appelle le CRES, ce centre de recherche et d'éducation sport et santé, où elle travaille en fait avec les clubs de sport des Minguettes, où elle a notamment fait venir Zinedine Zidane. Et il faut savoir qu'elle est psychologue diplômée en psychologie du développement. Et en fait, elle a inventé, mis au point une méthode en fait qui s'appelle la MIRPS, la méthode interactive de résolution des problèmes, avec les jeunes qui viennent dans les clubs de foot participer. Et en fait, sous forme de jeu, elle les amène à finalement collaborer en équipe avec les autres joueurs, et se rendre compte que finalement, les actions que les jeunes peuvent avoir dans l'environnement proche et immédiat peuvent avoir des répercussions, et ce qui aide d'une certaine manière à une construction particulière de la psychologie des jeunes.
Karim, tu viens de dire que cette éminente professeure a ramené a invité Zinedine Zidane, mm-hmm, pour qu'il soit justement une idole et un exemple pour ces jeunes, pour ces milliers de jeunes en France. Il y a à l'Assemblée nationale française 577 députés. Pas un seul, depuis la création de cette assemblée, qui est le Parlement français, n'est d'origine maghrébine. Pas un seul.
Ou autre, entre autres.
Il y a eu des d'origine africaine. La question qui se pose, vous allez me ramener Zinedine Zidane comme un exemple ou un idole pour que ces gens sortent justement de leur léthargie. Mais le jeune, quand il va avoir 20 ans ou 25 ans, il va se dire, les gars, moi je ne vais pas me cloîtrer dans une situation de joueur et de sport. Et pourquoi il faut que je m'appelle Étienne pour devenir député?
La démarche ne partait pas de là. C'était pas du tout ça. C'est simplement que elle s'est rendue compte, voilà, qu'à un moment, qu'il y avait énormément de problèmes au sein de l'AS Minguettes, c'est l'association sportive. Et donc, elle s'est intéressée à savoir d'où viennent ces problèmes et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà, il s'est trouvé que c'était une association sportive. Donc, une association
sportive. Il fallait chercher une référence.
Voilà, une association sportive de foot, on n'avait pas ramené un joueur d'échecs.
Ouais, mais Karim, juste par rapport.
Mais je comprends très bien ta question.
Il y a une volonté intrinsèque de la communauté maghrébine, mais à un certain moment, il faut qu'il y ait une volonté extrinsèque qui puisse les accepter.
Mais c'est ce que je disais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour l'instant, j'ai pas l'impression que la solution vienne des politiques. Elle vient plus finalement de démarches.
Sarkozy a plus l'intention de les carcériser que de les accepter.
Non, mais juste pour quantifier, parce que jusqu'à présent on a laissé Karim juste pour nous décrire la situation en France. Karim, est-ce que le problème, parce que vous avez mentionné que ce n'est pas un problème, c'est pas aussi dramatique que ça, mais reste que on en parle beaucoup au niveau des médias. Il y a beaucoup de recherches qui se font autour de cette question. Est-ce que c'est un problème qualitatif dans le sens de la gravité qualitative? Est-ce que c'est parce que c'est une minorité de Maghrébins qui souffrent et qui sont marginalisés, mais par contre d'une façon terrible qui fait que le problème est amplifié? Ou est-ce que c'est un problème quantitatif que, proportionnellement, il y a beaucoup, si on voit le taux de chômage en France, on va trouver qu'il y a beaucoup plus de Maghrébins, et ça c'est une réalité un peu partout dans le monde, on va trouver un taux de chômage beaucoup plus élevé chez les Maghrébins en général, et les Arabes musulmans en particulier, les Arabes musulmans en général et les Maghrébins en particulier, ou est-ce que c'est une question de qualitatif dans le sens où le problème est si amplifié dans un groupe de personnes qui est quand même restreint?
Alors déjà, je crois que c'est vraiment une question qui se répercute sur tout le monde, sur l'ensemble, même de la communauté maghrébine, parce que forcément, voir des bus qui brûlent en banlieue, ça se répercute aussi au niveau national, puisque c'est repris médiatiquement. Donc en fait, il y a une espèce de toile qui se crée autour de ça. Après, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu en fait. On sait très bien, par exemple, que les dernières populations émigrées arrivées sont souvent les plus marginalisées dans toutes les sociétés. C'est un peu ce qui se passe en France aussi. Il y a aussi cet effet de banlieue en fait, où il y a quasiment pas de perspective d'avenir, ou très peu. Il y en a quand même qui arrivent, hein, heureusement, mais c'est extrêmement compliqué. Voilà, quand on vient de banlieue, même diplômé, c'est extrêmement compliqué, par exemple, pour trouver un emploi. ou pour pouvoir sortir, aller ailleurs, en dehors de cette banlieue, trouver un logement. À titre personnel, à chaque fois que j'ai cherché un logement en France, j'ai toujours eu des problèmes. Voilà.
Et au Québec?
Au Québec, non. Enfin, j'ai eu des problèmes, mais dans le c'est un peu trop long.
Ouais. Voilà, c'est dans le même sens. On va prendre quelques appels. Ouais. Alors oui, bonsoir Nabil. Oui, bonsoir. Il faut s'éloigner de la radio, Nabil.
Salam
alaikum. Wa alaikum salam. Nabil.
سمعت بكريم يحكي على المانجات هذه توحشتها انا تفكرت ليون
انت as vécu à Lyon Nabil
la garde de Dieu قلت نتيرفوني تحكي على الانتيغراسيون en plein débat lancé par le ministre تاع l'immigration en France et le son à l'identité nationale et patati دخلت جات واحد ليفينمون الى بوسكيلي كاع لي زيدي ديال لو ماتش الجيري ليجيبت لا كاليفيكاسيون كوب دي موند الجيري سي كاليفي بروميي ماتش راتي تاع كاياساج بغيلي لي فرونسي فو ريان كونتري اون بليس يحكيو على لي شغل الانتيغراسيون تاع لي زيميغري و سي جون لا سي لا ماجوريتي دي جون ils s'identifient encore comme des Algériens. Parce que, je sais pas, ils sont nés en France, mais ils sont jamais reconnus comme des Français à part entière. Les Français les considèrent encore comme des Arabes, même il est né là-bas. Dès que le Front National avec Marine Le Pen, voilà, regarde ce qui se passe, fout le bordel, ces immigrés. Déroule le slogan pendant les régionales, quand les noms à l'islamisme, ou scotch au drapeau algérien, la géographie française. Vous n'avez pas compris quelque chose sur le mouvement des Kemel? Allez, mieux.
Moi, je peux le comprendre d'une façon. Bon, je pense que Le Pen est connu par rapport à ses positions, ça n'étend pas. Mais c'est sûr que ça revient à un point essentiel. Est-ce qu'on a pu réaliser. Un élément très important, c'est de faire sentir à ces jeunes-là qu'ils sont français.
Non, il y a quelque chose. Tant qu'il y a de la discrimination, les gens s'attachent davantage à leur identité, à leur culture. Qu'est-ce que tu dis au début de... Très bien, écoute, en France, ça fait même pas deux semaines, j'étais en France. Il y a qui la burqa, justement, voile, ou interdisant le voile intégral, ou patati, ou patata. J'ai dit, là, c'est le même débat. Ce qui fait une vraie colonie française qui s'installe de plus en plus. C'est dommage, mais alhamdoulilah, nous on possède la nationalité canadienne. Heureusement, s'il y a quelque chose, on peut aller aux États-Unis. L'exemple, après le 11 septembre, les attentats, le 11 septembre, tout de suite, les autorités américaines, les micros partout, à la télé, les musulmans américains, c'est des Américains, il ne faut pas les toucher. Préciser les choses. Ils ont clarifié les choses. Les terroristes sont des terroristes. J'ai une barre d'arbon, les tourtiennes. Les musulmans, les haïtiennes, c'est autre chose. Les Québécois, ils veulent suivre le modèle français. Parce que, comme tu dis, copie-collée ou les belges, ça existe sur l'informatique. Les Québécois, ils veulent suivre l'exemple français. D'ici 10-15 ans, ils vont comprendre. Parce que eux, ils sont les Français. La quatrième génération de les jeunes qui sortent les Champs-Élysées, le Vieux-Port, ou le Lyon, le Bordeaux. Et les belles qui sont, je ne sais pas, ça fait belle quatrième, cinquième génération d'origine algérienne.
Merci beaucoup Nabil pour la participation. Merci. Il n'y a pas de problème Nabil. Bonsoir Belkacem.
Bonsoir Lamine, Wahid et notre invité Karim.
Bonsoir.
Un coucou à toutes les auditrices et auditeurs. Je voudrais poser une question à Karim. Ma première question. La France, elle est conçue d'une couche d'immigration, mais il n'y a pas que l'immigration maghrébine.
Absolument.
Je voudrais savoir, est-ce que l'immigrant portugais ou italien, il est à même égalité qu'un immigrant maghrébin? Ma première question. Et là, je crois que l'intégration, c'est tout un contexte culturel, social, économique et politique. Tout à l'heure, vous avez évoqué le problème de la volonté politique. La volonté politique, elle dépend aux partis, aux associations et tout. Il faut revenir en arrière. La première génération d'immigrants, c'était la main d'œuvre, c'était ils habitaient dans les bidonvilles, ni électricité, ni le nécessaire sanitaire, vraiment. Et les immigrants, c'était des immigrants qui sont partis de la montagne, des montagnes de l'Algérie, qui parlaient même pas le français et qui sont restés des années. Ils parlent même pas correctement le français. Et là, ils travaillaient, vous savez, les conditions de travail, comment ils travaillaient. Et après, ils ont fait parvenir leurs femmes et leurs enfants. Et là, le problème a commencé. Le papa, il sortait la nuit, il rentrait la nuit. Il ne contrôlait même pas ses enfants. Est-ce qu'ils sont scolarisés? Est-ce qu'ils travaillent bien à l'école? Et il y a un autre problème. Vous avez parlé du logement. Vous savez, en France, si on n'a pas la citoyenneté française, On nous donne dans des HLM, les ZUP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les ZUP dans les banlieues. Mmh. Et pour accéder à un logement HLM individuel, il faut être français, il faut avoir la citoyenneté française. Et personne n'en parle. Il y a beaucoup de tabous dans la société française que personne ne parle. Et qu'il n'y a pas aussi une volonté politique pour radicaliser les choses dans le bon sens. Donc je crois que c'est tout un contexte. Et là, le problème, il leur a échappé. Donc, ils sont en train de... Puisque les années 80, les années 70, on n'a jamais parlé du problème de la religion de nos immigrants en France. On n'a jamais parlé. Ils vivaient leur foi librement. Mais il y a eu une idéologie. C'est pas qu'en France, partout dans le monde, l'islamisme, l'idéologie, les gens, donc ils veulent, c'est pas devenu la foi, c'est devenu une idéologie. Donc il y a une lutte idéologique dans peut-être notre religion et d'autres religions.
Merci beaucoup, Boukassem, pour.
Merci, et j'espère que. Et comme il a dit Nabil tout à l'heure, c'est que nous, on est en train de suivre le modèle français. Et si dans notre société québécoise, on va suivre, ça sera un autre échec total.
Comme il a dit Nabil, on est à 200 km d'Ottawa, 500-600 km de Toronto et un peu plus de Vancouver.
C'est ça, exact.
Salut, Belkacem.
On écoute.
Yatek, merci beaucoup, Belkacem. Donc, on va prendre une petite pause publicitaire ou on revient juste après la pause.
En 24 heures, on peut se rendre en Floride en taxi. En 24 heures, on peut devenir propriétaire d'un véhicule. En 24 heures, on peut se simplifier la vie.
En 24 heures, FinTaxi peut vous aider à financer votre permis de taxi en plus de vous offrir une multitude de services sous un même toit.
Nous vous proposons des conditions avantageuses, une démarche simple et facile, un service courtois et des délais très courts. Pour en savoir plus, appelez-nous au 514-353-2757. 514-353-2757 ou visitez le site fintaxi.ca. Avec FinTaxi, prenez la direction de votre réussite.
Le Festival culturel nord-africain de Montréal présente le deuxième printemps culturel nord-africain de Montréal, le rendez-vous du cinéma, de la littérature et de la musique du Maghreb, du 26 mars au 10 avril 2010 dans le quartier Côte des Neiges à Montréal. Au programme littérature avec le lancement du 12e Maghreb du Livre de Montréal en partenariat avec l'Espace du Livre francophone et la librairie Olivieri, invité d'honneur l'écrivain et poète Anwar Belmalek. Du cinéma avec des films d'ici et venus du Maghreb aussi. De la musique pour la clôture du printemps culturel avec l'ensemble des amis de la musique andalouse de Montréal. Pour plus d'informations et programmes détaillés, www.maghrebculture.com ou 514-466-1300. 514-466-1300.
celle-là, cette chanson, je la dédie à Farid, mon ami Farid.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb, avec vous à l'animation Lamine et Wahid. Notre invité ce soir, c'est Karim Lekhel, qui est un Français de, donc, d'origine algérienne, en étape de devenir psychologue, donc état voilà. final, à travers une recherche qu'il a entamée en France et qui veut terminer ici au Québec à travers l'analyse de la situation des Maghrébins en France et au Québec, une étude qui va lui permettre peut-être aussi de comparer les deux situations, surtout quand les deux sociétés vivent un grand débat sur la question de l'identité et aussi sur la question de l'intégration des immigrants. Nous avons abordé avec notre invité plusieurs questions. Wahid, je ne sais pas s'il y a des informations que tu voudrais quand même traiter rapidement. Il y a la question du passeport biométrique. Le passeport biométrique est retardé en Algérie. Donc,
il est retardé, il y avait une date limite donc, pour le
31 mars,
donc 2010. Et en fin de compte, une note est arrivée, donc nous est parvenue d'Algérie, et qui stipule que cette opération donc, de renouvellement des passeports est reportée jusqu'au 24 novembre 2010.
Donc, ça, juste pour expliquer, c'est que les personnes qui étaient appelées, qui devaient avoir leur passeport, à refaire leur passeport en 2010, étaient appelés à aller au consulat le 31 avant le 31 mars. Maintenant, ils peuvent y aller jusqu'au 24 novembre pour avoir un passeport normal, en attendant que l'opération de distribution ou d'attribution de passeport biométrique ne commence à partir de cette date-là, qui est le 24 novembre 2010. Donc, vous avez le temps de refaire votre passeport.
Ça, c'était 24,
un communiqué oui. du consulat.
C'est du consulat général d'Algérie.
OK.
Et pour les gens qui veulent avoir plus en plus d'informations, qu'ils vont justement aller visiter le site du consulat général d'Algérie à Montréal.
D'autres informations.
Il y a alors justement pourquoi les sociétés...
Attends, oui. parce qu'il y a un élément sur la... Je voudrais que vous reveniez sur la question du passeport biométrique.
Oui.
Un grand débat actuellement en Algérie sur la photo avec le foulard ou sans foulard.
Ah, ouais. Alors il y a un débat maintenant, c'est la guéguerre entre le président du Conseil islamique, M. Bouamran,
oui.
et du ministre de l'Intérieur, Zarhouni. M. Bouamran, il a dit, M. Zarhouni, vous n'avez pas à justement obliger les femmes à se dévêtir du khimar
quand
elles ne le veulent pas. Et le ministre de l'Intérieur veut appliquer la loi et c'est un nouveau débat, c'est la loi 95 là-bas. Ici bon. 94 là-bas, c'est 95.
Donc c'est l'intégration du passeport biométrique dans la société algérienne qui
c'est
pose
ça.
Problème. Cette
c'est
fois-ci.
Ça, oui. Deuxième événement, le 15 avril, il y aura un sujet assez intéressant intitulé « Pourquoi les sociétés occidentales ont peur de l'islam ?»
Ça, bon, c'est une provocation.
C'est une provocation. Alors, mais par contre, il y aura une double provocation. L'un des deux conférenciers, c'est Tariq Ramadan.
Et le deuxième
c'est le nôtre, Omar Aktouf. Donc, qu'on le reprend.
Il y aura un match algéro-égyptien aussi
Algéro-égyptien.
Comme par hasard.
Oui, comme par hasard. Mais je pense que ce sont des gens qui vont avoir.
Ils vont s'entendre.
Ils vont s'entendre comme d'habitude. Autre information, il y a le deuxième printemps culturel nord-africain de Montréal qui a lieu présentement.
Et oui, très intéressant d'ailleurs.
Très intéressant. Donc, il faut aller sur litxari.com pour avoir de plus amples informations. Et il y a bien sûr nos amis kabyles. Nos frères algériens, Sarveilet, le Centre Amérindien de Montréal vous invite à venir en grand nombre partager un événement important le 17 avril, le samedi 17 avril à 18h30 au collège Jean Brébeuf à participer à une fête familiale.
Mais l'événement c'est le 20 avril.
C'est le 20 avril, c'est la fête du printemps Noël, le Tefsut Imazirin. Ouais.
Un autre événement qui a marqué aussi ces jours-ci la France, c'est la question du maillot de l'équipe nationale algérienne. Puisque un jeune enfant français d'origine algérienne qui portait d'habitude donc des maillots de PSG, de l'OM, a décidé un jour de porter le maillot de l'équipe nationale algérienne parce que son oncle lui a envoyé
dans une école.
D'Algérie dans une école, comme d'habitude.
Quel téméraire.
Et là, tu dors trop là.
Ah, oui.
Tu dors avant l'émission, tu fais une sieste, c'est pour ça. Ça c'est dernière minute, il fallait rentrer
ça. Ça c'est grave.
Donc et l'enseignante là, lui a ordonné d'enlever le maillot.
Tout
jusqu'à
bonnement.
Là, je peux dire que c'est son droit. Mais elle est un petit peu le frénat, les freins ne fonctionnaient pas très bien.
Pourtant, c'est pas un signe religieux, ton tatouage.
Oui, mais parce qu'après le voile, c'est le drapeau de l'Algérie.
Sur le drapeau, enfin, et puis les t-shirts algériens, il y a la croix, enfin le
croissant.
Donc,
il se peut que ça. Karim, tu vois.
L'étoile.
Il faut vraiment ramener Karim, il va tout nous expliquer. Maintenant, attends, mais c'est parce que c'est le croissant qu'il faudra enlever.
Mais Lamine, il y a un problème. Maintenant, pendant la Coupe du Monde. Il y aura le drapeau algérien. Qu'est-ce que vous avez dit?
Ça, c'est un problème. Mais alors, l'enseignante, elle lui a dit que tu es en France, tu ne dois pas mettre ce genre de maillot.
Oui.
Et si tu veux le mettre, il faut aller chez toi en Algérie. Mais sauf apparemment, après analyse, l'enseignante, elle a beaucoup de remords.
Hein. Elle regrette ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle est de la famille à Éric Zemmour, peut-être, non?
Oui,
non.
Mais peut-être qu'elle voit beaucoup Éric Zemmour à la télé. Ça s'explique. Non, mais c'est terrible. Hein. C'est incroyable. C'est un enfant de 8 ans. Heureusement que son père a dit qu'il avait un autre maillot.
Mais c'est une bonne chose.
Ouais.
Les gens qui vont vendre les maillots d'Algérie là-bas, ils vont vendre beaucoup maintenant.
Pourquoi ?
Ah,
c'est vrai.
On nous empêche, on va le faire ce gars-là.
Karim, comment en France on vit ce genre de situation ? Est-ce qu'on est habitué que... Parce que Zemmour le dit déjà, donc...
Non, c'est choquant qu'on puisse faire des choses pareilles. C'est blessant, c'est ça le problème, c'est que c'est blessant et ça blesse beaucoup de monde et même des personnes qui finalement,
en plus,
ne se saisissent pas trop en général de ces polémiques parce que bon, c'est.
Et moi, je veux vraiment pas tomber dans la.
Le plus blessant, enfin, je me mets à la place de l'enfant. Enfin, c'est extrêmement dur pour l'enfant. Je me mets à sa place.
Non, mais je veux vraiment ne pas tomber dans la langue du bois, mais je vais dire ce que je pense sur ça. Surtout pas des Français. Ils se sont installés par le sang chez nous. Pendant 130 ans, ils ont massacré nos parents. Ils nous ont massacré culturellement. Et là, la dame, elle vient lui dire que vas-y chez toi. Il doit au moins rester 130 ans avec ce maillot en France, même s'il n'est pas français.
Déjà, il est resté.
Je parle de l'Algérien. Ouais. On a le droit de rester parce qu'au moins, avec ce maillot, il ne va pas massacrer les 10 millions d'Algériens qui sont morts, bien sûr, pas seulement par des guerres, mais par les maladies, par la malnutrition.
Brûlés vifs.
Et c'est incroyable. Hein, c'est vraiment incroyable. Et là, il nous parle de liberté, d'égalité. Une enseignante qui est censée donner l'exemple. Moi, je peux être d'accord qu'elle lui enlève le maillot. C'est pas ça qui me dérange, moi. C'est plutôt ce qu'elle a dit après.
C'est les propos, oui.
Parce que, bon, dans une classe de cours, peut-être qu'un maillot pourra distraire les enfants, ça crée un peu... Bon, je trouve que c'est normal que je suis plus pour des habits un peu neutres au niveau de l'école. Et c'est sûr qu'un maillot de soccer pourra, comme on dit ici, donc de foot, pourra perturber, créer un débat autour des enfants et tout ça. Mais là, lui dire que tu n'as pas apporté ça ici, vas-y. Donc, elle parlait pas de la classe, elle parlait de la France.
Mais c'est une question qui revient souvent, notamment quand il y a les drapeaux algériens, quand il y a des équipes de foot qui marquent, enfin qui gagnent, il y a les drapeaux algériens ou tunisiens, marocains, et effectivement, il y en a que ça dérange. De voir ça dans la rue. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en même temps, quand voilà, des équipes espagnoles ou italiennes gagnent des matchs, ou irlandaises, ou voilà, les drapeaux de leur pays.
Mais Le Pen, justement l'extrême droite, Le Pen en l'occurrence, lors des dernières élections régionales, il y a un drapeau qui les gêne le plus. C'est le drapeau algérien.
Oui, j'ai vu. J'ai
apparemment, vu ça. Si c'est d'autres drapeaux. Ben, bref, mais l'Algérien, ça les gêne beaucoup. Hein.
Il n'aime pas les couleurs, peut-être.
Oui, c'est les couleurs.
Il est peut-être daltonien.
Ouais, c'est ça. C'est le vert, le rouge, c'est dangereux. Hein. En plus, il y a les signes religieux, il y a le croissant.
Ouais.
Il faut changer. C'est peut-être c'est ça qui les dérange. Mais le problème, tu devras demander aux Algériens de changer le drapeau, imagine. Là, ouais.
Alors,
Le Pen, à mon avis, au vert et au rouge, il préfère le vert de rouge.
Alors s'il voit la police à Jean Talon lors des matchs algériens supportés avec nous pendant les fêtes des qualifications, ouais. Alors les Français, ils vont se retourner, je ne sais pas, ils vont pas croire leurs yeux.
Non, mais après, c'est des polémiques.
Il faut rendre hommage,
il faut rendre hommage à la police, surtout de Jean Talon. Parce qu'au moment où il y a eu les émeutes en France, ici c'était la fête. Il y a eu quelques dépassements et là il faut que notre communauté aussi s'organise encore mieux.
C'est vrai.
Il y a eu beaucoup de bénévoles, entre autres Wahid était là, qui ont aidé la police à s'organiser. Mais il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y a pas eu de grands problèmes. Et tous les matchs de l'Algérie depuis les premiers matchs. Donc
il y a la mairesse, Madame Annie Samson. Il faudrait la remercier, qui était vraiment d'un très grand soutien. Il y a le commandant de police, Monsieur Fadi Darer, d'un grand soutien. Et il y a un responsable aussi qui est là en pleine Derbouka, qui a été derrière ça, Nasser Boudi. Il faudrait le petit Maghreb.
Et j'insiste à dire, parce que c'est vraiment très important, c'est que peut-être que en France, ils doivent créer une délégation, venir voir ce qui s'est passé au petit Maghreb. C'est sûr qu'il y a eu des petits problèmes autour. Ça n'a pas été clean à 100%, mais il n'y a pas eu d'émeute. La police était là, il y avait une ambiance conviviable. C'est sûr que, comme je dis, notre communauté doit être plus vigilante, d'éviter des comportements maladroits, de sauter sur les voitures et tout ça. Mais par contre, le climat était quand même un climat de fête.
Mais en même temps, visiblement, c'est ce qui s'est passé aussi à Marseille cette semaine ou la semaine dernière. Je ne sais plus quand. Visiblement, l'OM a remporté un match. Je ne sais pas lequel. Je suis un peu largué avec tout ça. Mais par contre, j'ai vu une liesse dans la rue qui accueillait les joueurs de l'OM. Et puis, ça avait l'air effectivement très bon enfant.
On va prendre un appel. Allô, oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, je compte Mahana, bonsoir.
Abdelkader.
Oui, t'fadal, Abdelkader.
Moi, c'est juste pour savoir si c'est possible de passer une chanson là.
Oui, on va la passer. Quelle chanson ?
Issa Jarmouni, Termal.
Issa Jarmouni, Khouya Abdelkader, Goulek. Il y a un des disques durs. Attendez, Ntaouzahar. Normalement, j'y bois, Inch'Allah. Blak.
Ok, ça va être.
T'as un karma ?
Oui, c'est ça.
Ok, Inch'Allah, j'y vous aide.
Ça
va être, Maslam.
Il y a eu un article qui a été écrit sur l'intégration au Québec d'il y a 3 ans et qui dit entre autres le salut de notre intégration, ça veut dire de l'intégration maghrébine ici au Québec, viendra le jour où l'on fera l'heureuse rencontre des cris peaufinés par nos semblables canadiens musulmans, québécois musulmans, qui se mettront à pactiser avec le monde de l'écriture, et c'est seulement ce jour-là que notre intégration culminera vers les cimes de la réussite. Mettons-nous à écrire, à réfléchir, soyons les dignes héritiers d'Avicenne, d'Averroès, qui a fait connaître la pensée d'Aristote et de Platon à une Europe recroquevillée dans un Moyen-Âge inquisiteur et violent. Réapprenons nous-mêmes ce que nos pères nous ont légué, la stricte obédience au savoir, à l'écrit et à la tolérance. La voie est tracée, courage nul n'est parfait, tous à vos plumes, et que la lumière jaillisse, et que notre intégration triomphe. Ce texte a été écrit il y a 3 ans, lors des fameux accommodements raisonnables, justement. Oui. C'est-à-dire que notre communauté doit justement se prendre en charge. Elle l'a fait lors des matchs, des qualifications, où vraiment il y a eu une corrélation et une cohésion entre les services de police, les services de mairie et la population. Ça a été une réussite totale. Il faut que ça continue. Vous l'avez cité, Karim, tout au début. Il faudrait que l'on intègre les appareils politiques, les appareils associatifs, pour que nous puissions un jour justement être à la place de Sarkozy. Non pas pour se venger, mais pour aimer ce pays, s'intégrer et réussir notre intégration. Et clamer haut et fort que nous sommes de vrais et d'authentiques Canadiens et Québécois.
Ça me fait penser, parce que tu parlais de l'écriture, c'est un jeune comique que j'ai vu encore une fois en zappant, qui fait un spectacle avec son épouse, visiblement. Et lui, il est d'origine africaine et il dit, voilà, si un jour j'ai un enfant, j'ai envie qu'il puisse dire, bah, je suis 100% canadien et je suis 100% sénégalais. En fait, voilà, il est 100% des deux.
Il est 200%.
Il est 200% sans être 200%, il est 100% des deux.
C'est ça.
Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique, effectivement, comme genre de pensée. C'est pas antinomique, comme quoi c'est effectivement ça peut être possible.
Donc dans la
Par contre, je sais pas comment il s'appelle du tout. J'ai mangé son nom.
Il s'appelle Monsieur Courage.
On va dire ça.
Aller justement débraver les interdits de la société d'accueil.
Ben oui, les interdits. En même temps, ce qui est d'étonnant ici aussi, c'est que même des gens qui sont arrivés depuis peu, des gens que j'ai pu rencontrer qui sont arrivés depuis peu, m'ont dit moi je suis québécois. Ils se sentent vraiment québécois.
Non, il aurait dû vous dire je suis québécois.
Québécois, ouais, oui. Pardon. Tabarnouche.
Tabarnouche, oui. Je pense que, ne trouvez-vous pas, Karim, que le fait qu'il y ait justement un échange, une interconnexion entre la société d'accueil et nous autres, je pense que les solutions seront beaucoup plus plausibles.
Bah, de toute façon, il faut un contact de culture. Je veux dire, on ne peut pas rester recroquevillé, comme c'était écrit, chacun de son côté, et qu'il y a besoin d'un contact de culture pour faire tomber les craintes. Et c'est d'ailleurs mon mémoire, je suis en psychologie interculturelle.
Wahid, oui. Je vais te couper parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On va aller avec Aïssa Djarmouni.
Karma.
On a pu.
Karma.
Ça y est, ah, ça
oui.
a marché.
Oui, ça a marché.
Pour l'auditeur.
Pour l'auditeur. Frère.
Yeah.
Donc vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. C'est tout ce qu'on a pu trouver de Issa Djermouni. On va espérer de les prochaines émissions, on aura plus que ça. Donc Wahid, d'autres informations avant de conclure avec notre invité Karim.
L'ambassade des États-Unis à Alger a communiqué récemment ce qui suit. Annoncé vendredi, de nouvelles procédures de sécurité s'appliqueront à tous les passagers des compagnies aériennes, y compris les Américains, voyageant à destination des États-Unis. Jusqu'à présent, les vérifications systématiques ne portaient que sur les passagers en provenance des 14 pays de la liste noire, dont faisait partie l'Algérie. Les Américains n'ont pas pour autant poussé cette liste, mais ils l'ont justement élargie à tous les passagers de tous les pays, de tous horizons. Donc le scanner, tout le monde y passera, tout passager à destination du pays de l'oncle Sam va avoir affaire au scanner.
C'est pas sûr que tout le monde sera content, hein. Parce que tu sais que.
Mais la mine,
je veux parler des douaniers.
Les États-Unis.
Non. Mais attends.
C'est les États-Unis,
attends.
Ça.
Non, mais attends, c'est un problème parce que sur un vol, si tu étais le seul Algérien, tu passes le premier parce que tu passes sur une file spéciale. Là, tu es obligé d'attendre tout le monde. Parce que là c'est un problème, donc on est comme tout le monde. Parce qu'il y a des contradictions. Il y a une semaine, les États-Unis ont dit que parce qu'il y a une semaine, il y a un autre communiqué que j'ai lu dans les journaux dans le Moyen-Orient, qu'ils ont retiré le Liban de la liste. Et maintenant, ils remettent tout le monde. Non, il faut vérifier. Ben, c'est un communiqué de consommation locale.
Ah bon?
Ah oui.
Non, mais
tout le monde passe.
C'est l'ambassade des États-Unis, quand même.
C'est un dossier à vérifier. Mais c'est vrai, vu qu'ils ont acheté les scanners, la taxe d'aéroport a augmenté. Donc, ils vont mieux faire passer tout le monde parce qu'ils vont être jaloux. Parce que celui qui n'est pas dans la liste des 14 pays, lui, il paye la taxe pour que l'autre passe dans le scanner. Donc, c'est pour éviter les problèmes.
C'est vrai.
Karim, donc merci beaucoup d'être avec nous.
Merci
que
à vous.
Tu vas rester encore
accueilli
longtemps. On va sûrement t'avoir à la fin pour venir nous parler de ce que tu as compris,
c'est
de
possible.
Ne pas compris sur les Maghrébins ici.
Là, pour l'instant, il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore comprises. Tu vois.
Ça, c'est normal.
Sur le fonctionnement de la société.
Mais... Écoute souvent Radio Taxi Maghreb. Ben, tu auras plein d'informations et d'indications.
Très bien.
Kain Hadja Lamine, il ne faut pas oublier. Anajabirbi, en parlant des vols, justement, des familles maghrébines qui s'envolent pour les vacances d'été. Makash bzaf tayarat.
Il manque.
Lamine, makash tayarat.
Je n'ai pas compris.
Il n'y a pas assez de vols. Gahbu yrouhou, gama ajbhom shilbleb, sa gahbu yrouhou.
C'est ça la contradiction.
Il n'y a pas assez de vols. Il y a 4 vols maintenant à partir du 1er juin. Air Algérie, elle a ouvert 4 vols.
4
à destination
vols
d'Alger par semaine. Ils sont tous complets.
Ah bah oui.
C'est bien. Donc.
Oui, vols, ils seront tous complets.
Allez, il faut débattre de ça aussi.
Hey, 10 vols seront tous complets, Allah Iberg.
Et visiblement, il n'y a pas de vol direct Air Canada, Montréal, Alger.
Ça s'en vient.
Non, Air Canada, ils sont pas. Il y a juste Air Algérie qui fait. Et la Royale.
Parce que j'ai lu quelques trucs, effectivement, là-dessus.
Il y a une connexion qui est nouvelle, c'est la Lufthansa. La Lufthansa, elle a arrangé ses vols pour qu'il y ait une connexion. Ça, je l'ai vérifié. Connexion, c'est-à-dire Montréal, Francfort, Alger.
D'accord.
Si la British et Lufthansa ouvrent, donc il y aura plus d'opportunités à destination d'Alger, Casa et de Tunis, bien évidemment. Ils sont du Maghreb.
Donc c'était Wahid Elamine avec vous à l'animation de l'émission Taxi Maghreb. Karim, donc l'invité qui nous vient de loin, de France.
Très loin.
Très loin. Non, en disant la France, c'est devenu le Québec. Donc,
c'est loin, mais c'est près, c'est ça qui est...
C'est le Québec directement, puisqu'on va copier toutes les lois, on va plus réfléchir.
C'est
à
pareil,
chaque
mais
fois,
c'est différent.
À chaque fois que vous allez débattre de quelque chose pendant 2 ans, on va la ramener, l'appliquer 2-3 semaines et on l'applique. Ça va nous réduire au moins les coûts des taxes. On va espérer que le gouvernement va réduire les taxes, puisque le débat se fait en France et l'application se fait ici. Donc on va réduire le coût de développement des idées. On va juste avoir les coûts d'application des idées. Donc, merci beaucoup, Karim. On va se donner rendez-vous donc juste avant ton départ pour revenir sur les conclusions. Yatikoum Saha, donc on vous laisse avec les émissions de Radio Centre-Ville, essentiellement Tambou Batan, qui va commencer dans quelques instants. Et on va vous laisser avant avec la musique de Abdallah, un ami de Karim.
Abdallah Tarkmani.
Et tu lui dis un coucou, puisqu'il va peut-être écouter l'émission.
Il va l'écouter, et puis il connaît très bien Montréal de toute façon aussi.
Bien
il
sûr.
Viendra certainement bientôt.
Donc, on vous laisse avec une des stars de du groupe Reina Rai, un groupe qui a marqué les années 80 en Algérie et qui a marqué la chanson Rai.
Qui a marqué la chanson Rai, bien sûr.
Surtout par les rythmes électrifiés, disons.
Eh oui, effectivement.
Let's go.